France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Nos émotions, justement, elles nous semblent uniques, personnelles, difficilement partageables avec les autres. Et pourtant, ce que nous ressentons se nourrit aussi du discours des autres sur les émotions et sur les sentiments. Ils deviennent alors un sujet sociologique comme un autre. Mais alors, les émotions ne sont-elles que des constructions sociales? Comment participent-elles par ailleurs à reproduire les inégalités? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Christine Détré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous faites paraître avec Kevin Dieter cet ouvrage intitulé « Sociologie des émotions ». C'est aux éditions Armand Collin. Merci d'être avec nous ce soir dans « Question du soir ».
Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Les autres et moi, on est super excités d'être ici. Je les mets où, mes affaires?
Les autres, c'est qui?
Je suis en vie.
C'est pas possible, ça va jamais s'arrêter, c'est qui?
Comment tu t'appelles, mon grand?
Je vous présente Embarras. L'interaction sociale et la communication, c'est pas son truc. Mais c'est un gentil gros géant.
Super! Bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras.
Mais c'est quelle émotion qui a fait ça, là?
C'est ennui.
Qu'est-ce que c'est?
L'ennui. C'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle.
Eh bien, viens vite par ici et ennuie-nous! Non, je veux dire, ennuie-toi! Non, tu connais l'expression « l'ennui porte conseil » ?
Non.
Catherine Dété, quand on regarde ce formidable dessin animé intitulé « Vice Versa », il y en a même deux opus, on voit à peu près ce que sont les émotions. Ce sont des petits personnages colorés qui s'appellent chacun « joie, tristesse, peur ou colère ». Mais pour la sociologue que vous êtes, qu'est-ce qu'une émotion? Comment est-ce que vous la définissez?
Alors déjà, cette question qui pourrait sembler très facile, on pourrait y passer des heures, et je citerai en boutade, on la cite dans l'introduction de notre livre, la sociologue Peggy Twitz qui dit qu'il y a quasiment autant de définitions de l'émotion que de sociologues. Donc, bon, je vais vous rassurer.
Donc, il n'y a pas de définition, si je vous comprends
alors,
bien.
Alors si, on peut bien évidemment, on peut avoir des définitions de travail. Alors souvent, quand on va regarder dans le dictionnaire, on va avoir l'émotion qui va s'opposer au sentiment sur le critère de la durabilité, sur le critère de l'intensité et sur le critère du contrôle. C'est-à-dire qu'on aurait en gros l'émotion qui serait un affect un peu immédiat, pas contrôlé, et le sentiment qui lui serait beaucoup plus durable, plus complexe, etc. Bon, on voit bien que dans le sens commun, peur, ça fait partie des émotions, mais on peut dire aussi le sentiment de peur. Donc nous, ce qui nous intéresse en sociologie, justement, c'est pas tant de donner une définition, mais c'est de travailler sur les définitions que vont donner les gens qu'on interroge et quel sens et quelle utilisation et quelle utilité ont ces définitions. Pourquoi à un moment, on préfère dire émotion et puis à un autre espace un autre endroit de l'espace social, on va dire sentiment. Donc c'est ça en fait qui est notre terrain de jeu.
Est-ce qu'il faut justement pour entrer sur ce terrain de jeu, lutter contre le sens commun? C'est vrai, je le disais en introduction, souvent les émotions, on a l'impression que ça a un caractère singulier, ça nous appartient. On se dit qu'est-ce que la sociologie peut bien avoir à faire avec ça?
Oui, alors de la même façon en fait que des objets comme le corps, comme le genre, vous aviez fait une émission il n'y a pas longtemps, comme la santé, ce sont des objets qui pourraient paraître relever uniquement, et je dis bien uniquement, de la biologie. Alors si je dis uniquement, ça veut bien dire que quand on travaille en tant que sociologue, on ne nie pas qu'il puisse y avoir bien évidemment des éléments biologiques, chimiques, etc. dans les émotions. Mais c'est tout le travail de la sociologie, c'est de déconstruire en fait cette évidence effectivement de la naturalité et puis de l'universalité. Donc oui, les émotions, bien évidemment qu'il y a des phénomènes chimiques, biologiques, neurologiques qui s'y jouent, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce qui fait nous sommes des individus qui sont à la fois des individus biologiques et des individus sociaux.
Si l'on se plonge, Christine Détré, dans les travaux de l'un des pères de la sociologie, Émile Durkheim, qu'est-ce qu'il nous enseigne justement quand il aborde la question du deuil? Qu'est-ce qu'il nous enseigne justement sur cette question de ce que sont sociologiquement les émotions?
Oui, alors c'est très intéressant que vous repartiez vers un père, comme on dit, de la sociologie. Donc voilà, Durkheim ou bien Marcel Mauss, qu'on pourrait mettre...
C'est ce que vous avez mis des guillemets
Oui, alors je vais déguiner parce que forcément je suis aussi sociologue du genre et du coup voilà, on a beaucoup de pères de la sociologie et on a peu de mères reconnues, mais on en trouve quand on les cherche bien évidemment. Et donc Durkheim, souvent on va en sociologie des émotions, on va parfois un peu vite en disant voilà, c'est un emotional turn, c'est en ce moment, c'est en train d'exploser, et avant les sociologues ne s'intéressaient pas aux émotions. Et c'est pas tout à fait vrai, en fait, et c'est ce qu'on essaye de montrer avec nuance dans le livre, c'est qu'effectivement, les sociologues, les pères de la sociologie, c'est pas le cœur de leur analyse, mais en revanche, bien évidemment que les émotions n'échappent pas à leur réflexion. Et justement, Durkheim, quand il définit un fait social, il dit que ce sont les façons de dire, de penser et de sentir. Et donc, sentir, on a bien l'émotion.
Alors, mais, sur le deuil, justement, qu'est-ce qu'il
voilà,
explique?
Donc, j'y vais, c'est que j'y arrive. Donc, il va pas en faire le cœur de son travail, mais sur le deuil. Et comme Marcel Mauss après, il va nous montrer que le deuil, qui peut paraître quelque chose, comme vous le disiez, d'hyper intime, la tristesse, le chagrin, on a perdu quelqu'un, etc. En fait, Mauss emploie une expression, c'est l'expression obligatoire des sentiments. Et il reprend un peu ce que montrait Durkheim, c'est-à-dire que vous allez dans un autre espace, un autre endroit du monde, vous pouvez être frappé par le caractère qui vous semble un peu absurde, un peu irrationnel, un peu arbitraire des façons de témoigner son deuil. Par exemple, Durkheim dit, il va dans un endroit et puis quand il y a un deuil, les femmes se donnent des coups de bâton, mais une certaine quantité de coups de bâton, puis c'est pas n'importe qui, et puis il va dans une autre société où une femme qui est en deuil ne peut pas parler pendant un certain nombre de temps. Et il explique qu'on a des villages entiers où les femmes ne parlent plus, parce que les deuils se succèdent, etc. Et ce qui nous explique, en fait, c'est que ce deuil, et ça n'empêche pas qu'il soit vécu individuellement, donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'on n'a pas un vrai sentiment de tristesse qu'on ressent à l'intérieur de nous, etc.
La déconstruction n'efface pas le sentiment?
Bien évidemment que non. Ça, c'est vraiment parfois un procès qui est fait à la sociologie et qui est pas juste, en fait. C'est pas parce qu'on montre les règles sociales qu'on ne dit pas que les choses sont vécues, senties, authentiques, etc. et qu'elles sont vécues individuellement. Mais elles se comprennent dans des règles sociales. Et pour finir sur le deuil, expression obligatoire du sentiment, c'est bien l'idée que on apprend des normes, des façons de manifester notre tristesse selon qu'on est une femme, un homme, etc., plus ou moins proche du défunt, mais ça n'empêche pas que c'est vécu de façon très violente intérieurement.
Si l'on s'intéresse maintenant à la nécessité, au motif même de l'existence de ces émotions, à quoi sert une émotion dans le monde social? Est-ce que la sociologie permet aussi d'éclairer ces motifs et leurs enjeux?
Alors c'est exactement tout ce qui nous intéresse justement en sociologie. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas tant de mettre une définition que de réfléchir à quoi elles servent. Et à quoi elles servent, il y a plusieurs ordres de réponses. La première chose, si on continue sur l'exemple du deuil, elles servent à faire groupe. Quand vous faites deuil, quand vous allez, et voyez Durkheim qui parle de telle société éloignée, on pourrait très bien, et c'est l'intérêt de porter le regard sur nos sociétés à nous, quand vous allez à une cérémonie enterrement ou une cérémonie chez nous, c'est bien aussi pour faire groupe. C'est pour vous, c'est pour le défunt, mais c'est aussi pour la famille. Et ça nous insère, en fait, dans le groupe. De la même façon, la métaphore qui est employée par Mauss et qui va être filée après par d'autres sociologues, c'est l'idée du langage, en fait. On apprend une langue, et la langue de la même façon. Moi, je ne parle pas comme vous, voilà, j'ai pas la même voix, j'ai pas le même accent, j'ai pas les mêmes intonations, mais on fait groupe parce qu'on partage un même langage, en fait.
Vous expliquez aussi que c'est une façon, l'expression de ces émotions, il y en a évidemment pléthore, une façon d'adhérer à l'ordre symbolique et social. Qu'est-ce que cela signifie?
Oui, donc voilà, c'est plusieurs strates. Donc il y a d'abord l'interaction, je fais groupe. Et ce que ça nous dit aussi, ça nous dit le sens de notre place. Quelle place j'occupe dans l'espace social? Kevin Dieter, dans le chapitre qu'il consacre à ça dans le livre, il a une très belle formule dans un sous-titre. Il dit « Dis-moi ce que tu ressens, je te dirai qui tu es », en fait. Et c'est exactement ça. Dis-moi ce que tu ressens. Alors peut-être pas « je te dirai qui tu es », mais je te dirai à quel espace à quelle place de l'espace social tu te tiens. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es doté, alors voilà, avec le lexique des sociologues, de capitaux économiques, de capitaux culturels? Est-ce que tu es racisé, paracisé, etc. Donc, ça sert aussi à montrer notre place. Et enfin, voilà, à intérioriser, on pourrait dire, les émotions, c'est l'intériorisation, en fait, la somatisation, parce qu'il y a vraiment aussi une dimension très physique aux émotions, la somatisation de la place qu'on a dans l'espace social.
Essayons de comprendre maintenant, j'allais dire, un troisième motif, à partir d'un exemple, cette fois-ci, que vous utilisez énormément dans cet ouvrage dont je rappelle le titre, Sociologie des émotions, c'est chez Armand Collin. La honte. La honte, quelle est sa fonction? Vous dites que ses fonctions sont multiples, mais parmi celles qui existent, il y a l'enjeu de la régulation sociale. Alors expliquez-nous là aussi.
Oui, alors ça, c'est vraiment la honte. C'est aussi une, enfin, c'est un exemple qui est pris par beaucoup de sociologues. Alors Norbert Elias en premier, et puis après ça va être repris par d'autres sociologues. Et ce que montre Norbert Elias, c'est que justement la honte, c'est l'exemple de cette intériorisation du contrôle social en fait. Quand j'ai honte, je sais que j'ai outrepassé en fait la place que je devais avoir. Donc je redis là ce que disent les sociologues, hein. Le livre, c'est surtout le livre qu'on a voulu faire, la sociologie des émotions, c'est surtout une synthèse de ce qui se fait en sociologie aujourd'hui sur les émotions,
la place qu'on m'a attribuée ou à laquelle je me perçois moi-même,
oui, plutôt. Et ou à laquelle je voudrais aspirer. C'est-à-dire que j'essaye d'aller au-delà de ma place et on va me rappeler à l'ordre. Donc vraiment là,
vous appelez ça la honte narcissique.
Oui, voilà, et ça, c'est la honte qui vous remet à votre place. Et on le retrouve très très bien décrit dans les romans de Dany Ernaux, hein, par exemple. La honte, elle raconte bien la honte quand vous vous rendez compte que la place à laquelle vous aspirez, on vous renvoie à celle d'où vous venez. Et on a vraiment une sorte de cascade en boucle, puisqu'on a la honte, et puis on a la honte d'avoir honte, etc., etc., etc.
Est-ce que dans la compréhension de ces émotions, Christine Détré, on peut appliquer une logique de classe sociale? Est-ce que les émotions sont ressenties différemment selon que l'on vient d'une classe plus aisée ou plus modeste?
Alors, est-ce qu'elles sont ressenties différemment? Elles vont peut-être pas être ressenties au même moment déjà, ni peut-être dans les mêmes interactions. La honte, on pourrait dire que on n'a pas d'émotions spécifiques à une classe sociale. Il y a des émotions qui sont sans doute plus ou moins légitimes selon la classe sociale. Et puis on pourrait parler du genre aussi, parce que là aussi c'est vraiment un exemple où là c'est explicite et manifeste. Quelles émotions sont légitimes et acceptées quand vous êtes un garçon? Alors, par exemple, la colère, beaucoup plus acceptée quand on est un garçon que quand on est une fille. Mais ça dépend aussi de quel garçon on est. C'est-à-dire que si vous êtes un garçon de milieu favorisé, ça peut arriver un peu en plus, quoi. Si vous êtes un garçon racisé ou de milieu populaire, au contraire, ça peut vous desservir. Et en revanche, vous êtes un garçon, la tristesse, ça va être dévalorisé par rapport à une fille pour qui ça va être beaucoup plus accepté.
Est-ce que les émotions participent aussi à produire des inégalités? Là, on a parlé, j'allais dire, du sens inverse, la façon dont les inégalités engendrent différentes émotions, en tout cas dans la façon dont elles sont ressenties. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que les émotions sont aussi productrice d'inégalité?
Ah oui, bien évidemment, puisque ce que montrent justement tous ces sociologues qui travaillent sur ça, sur le lien entre, et vous avez raison de le dire, hein, c'est vraiment une sorte de dialectique entre émotion et inégalité. Les inégalités produisent en fait des émotions, et ces émotions vont servir à entériner légitimer et reproduire les inégalités. Si vous avez honte, vous n'allez peut-être pas aspirer à des positions qui pourraient vous faire progresser dans l'espace social. Si on vous dit que quand vous êtes une fille, la colère, c'est quand même pas bien vu, vous allez peut-être intérioriser ça sous la forme de la honte et ne pas vous révolter, ne pas lutter contre l'ordre social. Mais inversement, vous voyez, pour justement pas rester sur un mode un peu déterministe, misérabiliste et qui nierait tout progrès et tout changement, quand je vous donne l'exemple de la honte qu'on peut recoder en colère, on voit bien comment les mouvements sociaux peuvent nous aider à recoder des émotions pour en faire des moteurs d'action. Je pense à la colère, je pense aussi à un exemple que j'avais lu dans un très beau livre de Maggie Nelson qui s'appelle Les Argonautes, et elle parlait de cette façon dont les femmes vont dire « Ah, je suis désolée, voilà, je suis désolée. »
On est tout le temps... À s'excuser en permanence.
Voilà, on est tout le temps désolée. Et donc, cette gêne, cet embarras, et pourquoi ne pas le recoder et dire « Mais qu'est-ce qui fait que je sens que je suis désolée ?» Et là, ça devient des moteurs d'action.
Je voudrais qu'on prenne un autre exemple. On a parlé de la honte, parlons un instant du dégoût. Le dégoût, là aussi, c'est peut-être l'exemple paroxystique de la chose peut-être la plus viscérale. On a l'impression que le dégoût, ça vient quasiment du corps, des viscères. Et pourtant, vous dites non que c'est l'illustration d'un marqueur social très ancré.
Alors, on reprend les travaux qui ont été faits sur le dégoût, et notamment ceux de Dominique Mémy, Emmanuel Taïeb et Gilles Ravenot. Et ils vont jusqu'à dire que c'est la forme la plus violemment somatisée, en fait, de l'ordre social. Et vous avez raison, effectivement, le dégoût, bah, c'est le haut le cœur, c'est voilà cette répulsion immédiate qui montre bien ce que je disais tout à l'heure, le lien vraiment des émotions avec le corps, en fait. Hein, c'est, on a des manifestations physiques, hein, vraiment corporelles. Et ce que montrent Mémy, Taïeb et Ravenot, c'est comment tout ça, c'est le produit de socialisation. Ils citent dans leur ouvrage, ils et elles citent dans leur ouvrage une phrase de Bataille qui dit « Mais on oublie combien on a dû apprendre aux enfants à être dégoûté. » Voilà. On apprend aux enfants à être dégoûtés des crottes de chien qui traînent par terre, etc., ou d'une odeur. Et des travaux ont montré aussi combien on a appris historiquement à être dégoûté. Je pense là aux travaux d'Alain Corbin sur l'odorat, justement.
Les dégoûts d'hier sont pas ceux d'aujourd'hui,
exactement,
notamment.
Exactement, les dégoûts d'hier sont pas ceux d'aujourd'hui. Et en revanche, une fois qu'on voit ce caractère, justement, social et construit, historique et social, et donc cette construction, qui est tellement intériorisée qu'elle devient une seconde nature, elle nous sert à, justement, nous distinguer. Voilà.
Une lecture d'un texte extrait de Méditation au pluriel pascalienne, paru en 1977, signé Pierre Bourdieu et lu ce soir par Bertie Bourdon.
La reconnaissance pratique par laquelle les dominés contribuent, souvent à leur insu, parfois contre leur gré, à leur propre domination en acceptant tacitement les limites imposées, prend souvent la forme de l'émotion corporelle. C'est la honte, la timidité, l'anxiété ou la culpabilité. Elle se trahit dans des manifestations visibles comme le rougissement, l'embarras verbal, la maladresse ou le tremblement. Ce sont autant de manières de se soumettre, fût-ce malgré soi et à son corps défendant, au jugement dominant. Autant de façons d'éprouver, parfois dans le conflit intérieur et le clivage du moi, la complicité souterraine qu'un corps qui se dérobe aux directives de la conscience entretient avec la violence des censures inhérentes aux structures sociales.
Date de parution 1997, hein, je corrige mon erreur. Explication de texte, Christine Détré. Qu'est-ce que Pierre Bourdieu nous explique là ?
Alors, explication de texte. Je vais compléter par une autre phrase de Pierre Bourdieu qui, du coup, permet de mettre en perspective ce qu'il dit. Toujours dans Méditation pascalienne, il écrit « Rien n'est plus sérieux que l'émotion qui touche jusqu'au tréfonds des dispositifs organiques, en fait. » Donc voilà, ça
change pas ma question. Explication de texte encore.
En fait, c'est exactement ce dont on discute depuis tout à l'heure, avec une nuance, et je reviendrai dessus. Donc c'est l'idée vraiment que ces émotions sont l'intériorisation de l'ordre social et sa justification. Et Pierre Bourdieu, on a le même débat autour de cette intériorisation par les dominés des principes de leur domination. Le même débat s'est porté sur son ouvrage « La domination masculine », puisque là aussi, il explique que les femmes, donc de la même façon, par les émotions, etc., ont intériorisé et intériorisent les principes de leur domination. Donc, bien évidemment, voilà, c'est ce qu'on expliquait, la honte, l'embarras, la gêne, montrent combien on a notre deuxième nature, notre seconde nature, qui est cette somatisation, cette intériorisation de l'ordre social. Et de la même façon que la domination masculine a fait débat chez les féministes, de la même façon, là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant attention à ne pas non plus être trop déterministe, à ne pas fermer la porte au changement social. Puisque si on intériorise tellement notre domination, qu'est-ce qui fera que ça changera ? Et donc, voilà, il y a toujours ces petits décalages, ces appropriations, ces socialisations secondaires par la politique, par des collectifs, etc., qui permettent de faire de ces émotions non plus des hontes, mais des ressources.
Le sentiment roi maintenant, l'émotion reine, même l'amour. Et on commence avec La Rochefoucauld qui constatait déjà au XVIIe siècle, je cite, qu'il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec le moraliste? Alors, est-ce que le sociologue montre que l'amour, là aussi, est largement construit? On reprécise encore que ça n'empêche pas qu'on puisse ressentir ce sentiment amoureux.
Bien évidemment, et je vais citer le titre d'un article que j'adore, qui dit « Même les sociologues tombent amoureux ». Donc voilà, pour éviter qu'on pense que les sociologues ne sont que des cyniques, des abusés, etc. Donc oui, bien évidemment que les sentiments, les émotions, encore une fois, ça existe et ça fait bouger les gens et les lignes, et tant mieux. Mais c'est aussi de l'intériorisation. Alors, l'amour, déjà, on dit amour. Est-ce que La Rochefoucauld, quand il parle de l'amour, veut dire la même chose que nous quand on parle d'amour? Est-ce que quand je parle d'amour, là, un ado voudrait dire, enfin, entendrait la même chose par ce même terme? Donc déjà, voyez, un même mot qu'on va en plus traduire, traduire selon les langues. Est-ce que love, c'est amour? Est-ce que, alors, je suis pas polyglotte, donc je peux pas.
Mais là aussi, ça signifie qu'il n'y a pas de définition possible, ou en tout cas que la sociologie ne permet pas d'en donner?
Non, alors encore une fois, c'est pas tant la définition qui va nous intéresser que quelles sont les formations et les pratiques et les normes et les représentations. Si on revient à la phrase de La Rochefoucauld, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, dans le sens aussi où moi j'ai beaucoup fait de sociologie de la culture, c'est bien évidemment qu'on navigue dans des cultures émotionnelles qui viennent de, tout à l'heure je parlais de socialisation, donc bien évidemment les premières auxquelles on pense, c'est les socialisations familiales, mais pensons à toutes les socialisations médiatique, les romans avec lesquels on grandit, les séries avec lesquelles on grandit, les films, les chansons, etc. Et tout ça, on voit bien comment ça va nous inculquer, on baigne dans un univers en fait de représentation émotionnelle. Et donc, bien évidemment, voilà, on n'aurait pas, en tout cas, on n'entendrait pas, on ne serait pas amoureux de la façon dont on l'est dans notre temps contemporain, si on n'avait pas, effectivement, toute cette littérature qui nous a formés, etc. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur l'idée du progrès, qui est remise en cause. Quand vous avez aujourd'hui des livres ou des podcasts qui remettent en cause l'amour toxique, qui remettent en cause la façon dont on a été élevé et socialisé dans des normes d'amour très violentes, inégales, etc., on voit bien ce travail pour faire bouger ce qu'on appelle l'amour.
Une transition toute trouvée avec les propos d'Isabelle Claire, sociologue directrice de recherche au CNRS. Elle évoque le sujet de la norme conjugale qui se dessine bien plus tôt que l'on l'imagine parfois, au collège notamment.
On a une représentation selon laquelle, en gros, ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire le fait qu'il est quand même mieux vu d'être à deux que seul, apparaîtrait plutôt vers 30 ans, quand on s'installe. Et en fait, ça apparaît plutôt au milieu du collège, et vers 14-15 ans, les jeunes qui sont plus souvent pas en couple commencent à se définir comme étant célibataires, et donc utilisent en fait le vocabulaire du couple pour se définir, y compris justement, et surtout pour se dire en dehors de cette expérience-là encore à cet âge-là.
On en revient, Christine Détré, à ce que vous décriviez juste avant ces propos. Les évolutions de la norme conjugale induisent nécessairement des évolutions de ce que l'on imagine être la norme amoureuse.
Oui, et là aussi, c'est encore très intéressant de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Là, on a eu une enquête récente là qui est parue avec les premiers résultats de l'enquête Envie et qui montre justement une ouverture de l'éventail des possibilités qu'affichent les jeunes. Alors quand je dis les jeunes, bien évidemment, il faut ensuite aller dans le précis des tableaux, des différenciations, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai mouvement de faire évoluer ce modèle conjugal, binaire, hétérosexuel aussi. On a beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle l'hétéronormativité, qui est que effectivement, on nous a élevés dans cette idée qu'un couple, et ça, Kevin Litter a beaucoup travaillé là-dessus sur la façon dont les enfants sont élevés dans cette idée-là, un couple, c'est quoi? C'est un homme et une femme. Et si vous êtes deux femmes ensemble ou deux garçons ensemble, deux hommes ensemble, il avait fait cette enquête auprès d'enfants de primaire, là, on va dire que c'est de l'amitié. On va pas dire que c'est de l'amour.
Comment est-ce que le capitalisme s'approprie par ailleurs ses émotions? On voit bien que, évidemment, le développement personnel met les émotions en avance, que les émotions sont souvent objet de publicité, de marketing, qu'ils sont au fond au cœur du discours capitaliste. Mais au-delà, comment est-ce que les émotions professions deviennent elles-mêmes une marchandise.
Oui, alors là, c'est tous les travaux de la sociologue Eva Illouz, hein, qui s'est beaucoup penchée là-dessus et qui d'ailleurs a sorti un livre très récemment. Et en fait, ce que montre Eva Illouz, c'est elle parle de ce qu'elle appelle l'émoditis, donc effectivement, les émotions. Classiquement, le marketing, la publicité font vendre. Ça, c'est pas récent. Ce qu'elle montre, elle, c'est ce qui arrive depuis plus récemment, c'est que les émotions vont devenir le produit que vous achetez. Donc, c'est les emodities, les marchandises émotionnelles.
C'est cela qu'on marchandise directement.
Alors, ce sont des marchandises, c'est-à-dire que quand vous achetez une, vous allez acheter une ambiance, vous allez un film d'horreur. Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est la peur que vous ressentez d'ailleurs avec les copains et copines. Hein, chez les ados, c'est très fort. Hein, ils sont pas tous psychopathes hein, à vouloir regarder des films d'horreur, c'est que...
Loin de là.
Voilà, bien évidemment. Et ce qui se crée, c'est plutôt le collectif. Et puis, l'autre chose que pointe Eva Illouz, alors, donc, dans les omédities, il y a aussi, bien évidemment, l'amour et les applications de rencontres. Les applications de rencontres, ça fonctionne vraiment sur le fait qu'on vous vend du désir, on vous vend l'illusion que vous allez trouver l'amour. Alors, heureusement, certains la trouvent, hein, mais en tout cas, Eva Illouz est beaucoup plus, est très pessimiste là-dessus. Et puis, elle parle aussi, dans un livre avec Cabanas, de justement tout le développement personnel, vous l'avez un peu évoqué, en montrant aussi les enjeux, c'est-à-dire que tout le développement personnel ou la psychologie positive vont partir du principe que si vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute, en fait, quelque part. Vous voyez, c'est à vous d'aller recoder votre intérieur, votre émotion, alors par des séances, des je sais pas quoi, des podcasts, etc. Et ça efface donc complètement toute la conscience, peut-être justement, des inégalités dont on parlait tout à l'heure.
C'est passionnant. Merci beaucoup Christine Détré. Donc un conseil, la lecture de cet ouvrage intitulé « Sociologie des émotions » que vous signez avec Kevin Dieter et qui paraît chez Armand Collin. Merci beaucoup d'être venu ce soir à Question du Soir.
Merci.